instant, on a avec nous Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société. Létis est avec nous. Bonjour Raymond.
Bonjour Tania.
Et tu nous parles donc cette semaine d'une stratégie américaine de gestion de déchets électroniques.
Oui,
ça ne veut pas dire des courriels qui vont dans notre
oreille. On parle de déchets qui courent à des déchets. C'est qu'on peut prendre, dans nos mains et qu'on peut jeter. Il faut dire, parenthèse, cette semaine, on va beaucoup s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. Et ça, c'est un dossier qui a été mis de l'avant cet été, en fait. Les déchets électroniques, globalement, ça représente à peu près 2,4 millions de tonnes à chaque année aux États-Unis. Donc, c'est quand même beaucoup de tonnes.
Oui.
De plus, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a une bonne partie qui n'est pas collectée séparément, qui sont incinérées, qui sont enfouies. Donc, on le sait, ça a des graves conséquences environnementales. Toujours aux États-Unis, il y a les trois quarts des déchets électriques et électroniques qui sont collectés pour être traités, qui sont en réalité exportés vers des pays en voie de développement où ils vont être recyclés là-bas dans des conditions qui ne respectent pas nécessairement les bases minimales en lien avec la santé humaine, en lien avec l'environnement. Et il n'y a pas non plus d'encadrement qui vient des États-Unis quant à la gestion qui est faite des produits à recycler qui sont envoyés dans les autres pays. Alors, pour ces diverses raisons-là, l'administration américaine s'est intéressée à la gestion qui est faite des déchets électriques et électroniques et ont décidé de démarrer une stratégie en vue, entre guillemets, de donner l'exemple. Une stratégie, bon, qui est applaudie par les uns, qui est critiquée par les autres, mais globalement, un peu toute analyse sur laquelle je suis tombé autour de ce projet-là disait, ben, on est bien content qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et parallèlement, on remarque aussi que les États-Unis sont inspirés en partie notamment des initiatives en Europe autour de cette problématique-là. Alors, de quoi on parle un peu dans cette stratégie-là? En fait, c'est autour de quatre grands axes. C'est si on y va, si on simplifie le tout. Alors, premièrement, on parle d'offrir des incitatifs pour concevoir des produits électroniques plus écologiques pour favoriser aussi le développement de la science, de la recherche et de la technologie aux États-Unis dans le domaine. C'est évident, bien entendu. Alors, globalement, on parle de réunions multipartites, on parle d'encourager l'achat de produits électroniques certifiés verts, de promouvoir la recherche et le développement, de lancer des concours, des prix, des programmes, etc.
Parce que j'imagine aussi d'avoir un ordinateur qui dure 2 ans au lieu de 5. Ça fait qu'on le jette à peu près 2 ans au lieu de 5.
Exactement, il y a une batterie qui est dans l'ordinateur, si elle n'est pas en mesure d'être bien recyclée parce que les technologies ne sont pas pensées dans ce sens-là, eh bien, non seulement elle va avoir surconsommation, mais en plus, les produits qui sont à l'intérieur de ces appareils-là, pas nécessairement suffisamment durables, mais vont aussi avoir un impact un peu plus lourd sur l'environnement. Mais il y a quand même plusieurs degrés à considérer. Et d'ailleurs, à ce titre, le deuxième axe, c'est de faire du gouvernement fédéral américain un acteur exemplaire dans le domaine. Alors, c'est de se dire, dans le fond, ben, ce qu'on va demander aux autres d'appliquer, nous, on va le faire et on va essayer d'en faire un peu plus aussi. Alors, eux veulent à terme établir une politique fédérale de réutilisation des produits électroniques, de destruction des données confidentielles enregistrées et de recyclage par des organismes certifiés. Ils veulent encourager aussi les manufacturiers électroniques à inclure des clauses de reprise du matériel usagé pour qu'ils puissent éventuellement réutiliser, le récupérer, le remanier, diriger les dépenses du gouvernement aussi vers des produits électroniques qui sont qualifiés de verts et également faciliter la coopération entre les différentes instances gouvernementales pour faciliter l'échange et le recyclage des produits. Donc, quand on a renouvelé notre parc informatique, vous n'avez pas le budget pour le faire, bien, utilisez le nom, donc de décloisonner un peu tout ça.
Ne pas jeter nécessairement parce que nous, on ne s'en sert plus.
Exactement, peut-être une autre instance ou une autre instance communautaire. Donc, de mieux balancer peut-être un peu tout ça. Disent aussi, en troisième point, qu'ils vont chercher à améliorer la gestion saine et efficace des déchets électroniques aux États-Unis, à essayer de mettre en place des liens avec l'industrie, des liens volontaires, par contre, et ça, c'est une des critiques, d'ailleurs, qui était soulignée par certains. Ils disaient, ben oui, c'est un bon plan, mais en même temps, c'est pas quelque chose de contraignant, il n'y a pas d'obligation à mettre ça en place. Alors, voilà un exemple. Ils vont également tenter de fournir des guides aux entreprises pour offrir un environnement de travail sain et de mettre en place aussi des outils de mesure et de suivi des déchets électroniques sur le territoire américain, favoriser l'accès aux informations par le public, donc savoir combien de déchets qui sont émis, où sont-ils récupérés, comment sont-ils récupérés, etc., etc., etc.
Et pour pouvoir améliorer, il faut avoir ces données-là, c'est bien important.
Exactement. Et en fait, le dernier axe, c'est un peu lié avec le climat économique aux États-Unis, donc beaucoup d'instabilité là-bas, beaucoup de recherche de création d'emplois. Et donc, ils se disent qu'en envoyant ce matériel-là dans les pays en voie de développement, ben, de un, effectivement, ils perdent peut-être un peu le contrôle sur la manière dont le recyclage de ces déchets électroniques se fait. Et parallèlement, ils perdent aussi les emplois qui sont rattachés à ce recyclage-là. Alors, ils veulent réduire les dommages causés par les exportations de déchets électroniques américains dans les pays en voie de développement et parallèlement soutenir donc et promouvoir la récupération et le recyclage auprès des exportateurs et éventuellement la création aussi d'entreprises d'économie en lien avec le recyclage. Alors ça, c'est, donc je le rappelle, la stratégie américaine de gestion des déchets électroniques qui a été lancée un peu plus tôt cet été. Ça reste une stratégie, donc ce n'est pas contraignant pour l'instant, mais ce qui est intéressant, et notamment pour nous du côté de la recherche aussi, c'est qu'on voit qu'une des plus grandes économies mondiales dit, ben oui, effectivement, il y a un problème, on a une stratégie, et dans cette stratégie-là, notamment, il faut se questionner sur la manière dont les produits sont faits et sur comment on pense leur cycle de vie. Alors, nécessairement, ça risque aussi d'être un axe de recherche important. Enfin, il l'est déjà, mais il sera, j'imagine, d'autant plus.
Raymond, deuxième sujet, tu nous parles cette fois-ci d'un projet Internet qui est hors de tout contrôle.
Oui, c'est assez particulier. En fait, je suis tombé là-dessus en parcourant les pages et le site web, principalement du journal Le Monde. C'est un projet qui s'appelle Commotion. C'est une petite équipe qui est composée d'informaticiens, de juristes, de sociologues qui sont en train, ni plus ni moins, de réaliser l'utopie suprême des hackers et des militants libertaires dans le monde entier. Ils sont en train de créer un logiciel qui permet la création de réseaux sans fil à haut débit, 100% autonomes, qui vont fonctionner sur les séquences Wi-Fi, mais qui ne s'appuieront sur aucune infrastructure existante. Donc, pas de relais téléphonique, pas de câble, pas de satellite. C'est des réseaux qui seraient mouvants, horizontaux, entièrement décentralisés, qui échapperaient, bien entendu, à toute surveillance, trafic qui serait anonyme et crypté. Alors, un projet extrêmement particulier. Ça soulève, bien entendu, bon, plusieurs questions, notamment ben, l'impact que ça pourrait avoir, cette technologie-là, si elle est rendue publique ou lorsqu'elle sera rendue publique pour, notamment, les réseaux de téléphonie actuels. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a déjà des exemples, eux en cite dans cet article, des exemples donc de réseaux qui ont été mis en place sans nécessiter donc aucune structure, donc d'interconnecter des réseaux voisins, mais sans aller poser des antennes et le reste. Ils l'ont fait notamment à cheval sur l'Autriche, la Croatie, la Slovénie. C'est une petite équipe qui avait fait ça en juillet à bord d'une camionnette et avait couvert une zone de 60 km sur 30. Et donc, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on pourrait donc mettre en place des réseaux comme ça, entre autres aussi dans certains pays. Dans certaines zones peut-être un peu plus pauvres, avec des gens plus démunis qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller chercher des accès ou de se payer des infrastructures aussi qui leur permettraient d'obtenir cet accès-là. Et parallèlement, ils lancent aussi l'idée d'un projet qui s'appellerait Freedom Box, qui serait en fait un ordinateur basique, bon marché, transformé en serveur crypté, sécurisé pour le grand public. Et donc, exemple, si éventuellement il arrivait que le réseau local tombait, les informations qui seraient en cours dans l'envoi sera stocké jusqu'à la réactivation du réseau. Donc, il n'y aurait pas de données non plus qui seraient perdues. Alors, il y a des implications, comme on le disait au départ, ben pour les groupes libertaires et autres. C'est évident pour les hackers aussi, mais parallèlement, donc pour la société globalement et pour l'évolution des technologies, de l'information, du sans-fil, de la mobilité, ça aussi, des très, très intéressantes implications. Alors, ça va être intéressant de voir au fil des prochains mois, voire des prochaines années, justement, comment, d'un côté, l'industrie réagit à ça. Est-ce qu'ils vont tenter d'halter, de ralentir ce développement-là pour préserver un peu les acquis actuels? Est-ce que parallèlement, ce type de recherche sera aussi ouvert à d'autres entités que cette petite cellule pour pouvoir voir des applications en dehors, justement, des projets qu'eux ont? C'est pas mal de questions. Il y en a sûrement d'autres aussi qu'on peut soulever autour de l'initiative.
Ça me fascine un peu, par exemple, comment on peut réussir à faire tout ça. J'avais vu une connexion Internet en plein milieu d'un champ, grâce à des ponts Wi-Fi, mais là, ça dépasse vraiment complètement ce que je peux imaginer. Donc, j'ai hâte de le voir, parce que là, je ne peux pas l'imaginer, malheureusement. Mon imagination n'est pas assez forte. Et Raymond, ton troisième sujet, tu nous parles de l'utilisation des services de localisation mobile par les adultes américains.
Toujours. Oui, en fait, je me suis dit, on parle de mobilité. Alors, faisons un petit clin d'œil nos collègues du Pew Research Center aux États-Unis, à l'État de New York, ont fait une petite étude, justement, sur les notions de géolocalisation. Donc, si vous avez un téléphone intelligent, mais souvent vous êtes appelé à utiliser le fait que votre téléphone sait où vous vous trouvez, à quel moment vous vous trouvez. Donc, si par exemple vous cherchez une utilisation GPS, ben, vous cliquez votre destination, mais vous n'avez pas besoin de spécifier d'où vous partez. Votre téléphone le sait.
Il sait. Ça, c'est pratique, là.
Et il y a 28% en fait les utilisateurs de cellulaires qui utilisent justement ce type de service-là basé sur leur location courante. Donc, c'est pas encore un pourcentage aussi important que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et de ça, on connaît aussi des logiciels comme Foursquare ou GoWalla, donc qui nous permettent simplement de cliquer et dire, ben voilà, maintenant j'affiche publiquement, je suis à tel endroit. C'est seulement 5% des utilisateurs de téléphone qui font justement ce type de pratique-là. Et à l'intérieur de ça aussi, ceux qui vont poster leur localisation sur Facebook, Twitter, LinkedIn et les autres réseaux sociaux, ça c'est 9%. Donc, c'est pas un très haut pourcentage, quand même pas négligeable, mais c'est pas tant. Et ce qu'on remarque, donc, c'est que tranquillement, il y a une progression d'utilisation de la géolocalisation, mais c'est pas encore non plus généralisé.
Mais ça, c'est aux États-Unis.
Aux États-Unis.
OK. Parce que j'essaie là, de me remémorer un peu là, mes amis Facebook qui se en bon français, tag, qui se géolocalisent. Puis c'est vrai que finalement, c'est toujours les mêmes.
Il y en a un ou deux amoureux du service, mais les autres sont pas,
ont
pas encore intégré cette pratique-là. Ce qui me surprend peut-être un peu plus, c'est le 28% des utilisations des pratiques de géolocalisation, mais personnelles. Donc, de dire, ben, voici, je suis ici, voici l'itinéraire que je cherche. Ça, je m'attendais sincèrement à ce qu'il y ait un peu plus de gens qui utilisent ce service-là.
C'est surprenant. Et Raymond, en terminant, tu nous parles d'une activité qui s'en vient à l'ETIS.
Oui, une très, très belle activité. Tout particulièrement, en fait, si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez dans le milieu des technologies de l'information, ça pourra peut-être vous intéresser. En fait, c'est une conférence qu'on organise le 5 octobre prochain autour de la thématique de l'utilisation de la modélisation 3D, mais en archéologie et en patrimoine. Parce qu'il faut dire, en fait, quand on pense 3D, on pense d'emblée à l'univers des jeux vidéo, mais il y a plein d'autres utilisations qui peuvent être faites de cette sphère-là. Et nous, ben donc, on va s'intéresser donc à ces deux éléments-là, donc patrimoine et archéologie. Et il faut dire que présentement, Tania, en fait, il est possible de se promener dans la Rome antique avec un projet qui s'appelle Rome Reborn. Il est possible également d'aller visiter des temples égyptiens sur Karnak. Alors, c'est des projets comme ça qui montrent qu'il y a de plus en plus d'importance qui est prise par les nouvelles technologies et la modélisation 3D dans le domaine des sciences humaines et sociales, donc dans ce qu'en anglais on appelle les Digital Humanities. Et donc, la conférence qu'on va présenter va permettre au public de prendre le pouls des tendances et des développements internationaux dans ce domaine-là, parce qu'on va avoir le plaisir de recevoir, donc au début du mois d'octobre, un professeur qui est le responsable d'Archéovision, qui est la plateforme technologique 3D de l'Université de Bordeaux 3, qui est essentiellement le leader français dans le domaine du 3D en patrimoine et en archéologie. Alors, ça serait intéressant de voir tout ça. Et présentement, d'ailleurs, en fait, je lance aux auditeurs, auditrices, si vous avez envie de faire un peu cette exploration-là, avant qu'on en reparle, parce qu'on va sûrement en reparler, et vous pouvez simplement chercher le projet Rome Reborn sur votre navigateur Google. Et essentiellement, ça vous donne accès à la Rome antique à partir de Google Earth. Donc, ça reste dans les choses qui sont très accessibles. Alors, je lance cette piste-là pour l'instant et on va reparler et explorer peut-être un peu plus avant là, cet automne, justement, la dynamique d'utilisation de la 3D dans les sciences humaines et sociales. Alors, la conférence, c'est le 5 octobre. Il y a des frais d'inscription. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, c'est sur le site de l'ITIS, www.itis.laval.ca.
On retrouve également les chroniques que tu fais ici à l'émission. Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.